Rue Jacques Coeur, librairie 1789. Vous ne l'avez pas vu longtemps dans la rue Jacques Coeur, place de la Bastille. Mon ami a ouvert sa librairie il y a un mois seulement. Une bande d'individus cagoulés est venue une semaine après l'ouverture pour lui casser son enseigne, des royalistes. Les témoins sont formels. De la jeunesse dorée, on croit rêver, mais non. Les rues tout autour, si proches de la place, sont à eux. Ils n'ont aucune tolérance pour d'autres idées que les leurs. On a réparé toutes les deux les dégâts comme on a pu, ce n'était pas si grave, tant pis. Elle n'a pas les moyens de faire réinstaller le nom du lieu sur la façade. Elle sent aussi que ce serait dangereux au milieu de ses tarés. Une enseigne invisible continuera de parler grâce au livre de la vitrine. Jean Genet, Samuel Beckett, Louis Calafert, Marguerite Duras, Jean-Louis Bory, René Char, Simone de Beauvoir, Primo Levi, Wilhelm Reich, François Scheng, et même Céline, malgré ses prises de position entre 40 et 45, et même Claudel, malgré l'immolation de sa sœur, etc., etc. Ils sont tous là, ils défendent l'entrée, ils défendent la liberté des idées, ils annoncent la couleur. Vous ne trouverez pas ici de Paris Match, c'est une librairie, pas de carte postale, c'est une librairie. Pas de gens d'Ormesson, c'est une librairie. Ce n'est pas plus un magasin à touristes très nombreux dans ce quartier. Vous trouverez de la littérature. Vous lirez des auteurs qui écrivent pour dire l'essentiel de la vie, pour exprimer leur souffrance ou leur amour de la langue française. Aujourd'hui, un mois après, ils sont revenus, toujours cagoulés, toujours très courageux sous leur masque. Cette fois, ils avaient des bombes de peinture rouge et de peinture vert foncé et aussi des gros pots et des pinceaux. Personne n'avait annoncé la couleur. Ils ont badigeonné et bombé tous les livres de ces deux couleurs en un clin d'œil, tandis que nous nous occupions des clients. Nous sommes sortis en trombe avec l'un d'eux pour les poursuivre dans la rue. On jouait des coudes et des épaules, on n'avait pas peur. Là, cette fois, c'était trop grave. Tous les livres étaient foutus. Mon amie travaillait à flux tendu, comme on dit. Elle n'avait pas les moyens d'avoir du stock. Comment vendre maintenant des livres pleins de peinture? Nous en avons rattrapé un qui nous a insultés. Et nous lui avons renversé les restes de peinture rouge sur la tête. Ce n'était pas de la peinture à l'eau. Mais une peinture bien grasse, une laque. Indélébile, bien rouge et bien visqueuse, nous avons repeint le monsieur qui avait cessé de se débattre devant notre détermination à le maintenir. Les restes de peinture verte, nous les avons mis dans les ombres, sous les bras, à l'intérieur des jambes de pantalon, dans les oreilles, dans le creux des mains, dans le cou. Les cheveux, par contre, étaient bien rouges et le front et toute la tête alouette. Il n'en revenait pas qu'on ose le monsieur, il n'emmenait pas large, bien qu'il continuât à nous traiter de bâtards. De mon côté, je ne savais pas que les couleurs de la royauté étaient le rouge et le vert. Je pensais plutôt au blanc. Mais pour Bombay, le blanc était une couleur sans doute moins fun. Je pensais que c'était des royalistes italiens qui voulaient repeindre leur drapeau. La librairie a bien été vandalisée pendant l'année 1989, année de commémoration de la Révolution française. Fin de la nouvelle. Nouvelle suivante. Fin. Il faisait chaud, très chaud. Les rues se vidaient et les quelques passants qui s'attardaient encore avaient les vestes, les chemises et les chapeaux à la main. Un homme gesticulait sur la place presque vidée en proférant des menaces. « C'est la fin de la terre, c'est la fin du monde, la terre va toucher le soleil, elle a été déviée de sa trajectoire par un projectile inconnu, c'est la fin du monde. » À l'observatoire, les savants s'affairaient derrière les lunettes. Aucun d'eux ne comprenait ce qui se passait. Ils évoquaient un phénomène géant et mystérieux. Était-il possible qu'un tel événement survienne sans que personne n'ait pu le prévoir? On parlait bien du réchauffement climatique, mais quand même, celui-ci était subit, brutal, extrême. Les plantes s'affaissaient dans leur peau, les arbres recroquevillaient déjà leurs feuilles, et les personnes fragiles s'effondraient sous la pression irrespirable. Il n'y eut bientôt plus de vert dans le paysage. Ce fut la première couleur qui disparut aux yeux de tous. À la place, le marron, terre de sienne, la terre brûlée s'installèrent. Les mains se desséchaient, les pieds fondaient sur le sol brûlant, plus une goutte d'eau n'irriguait le canal, la rivière, le fleuve. Le désert gagnait, celui qui annonçait la fin du monde avait sans doute raison. Toute vie s'essoufflait dans les derniers retranchements de l'humide, de l'humus, de l'humain, de l'animal. Il ne restait que les chameaux qu'on allait chercher dans tous les eaux de la ville pour s'enfuir ailleurs, vers un autre espoir. Mais tout le monde savait bien qu'une chaleur mortelle était arrivée, qu'elle avait envahi la totalité du monde et que c'était la fin. Fin de la nouvelle. Nouvelle suivante. Chutait. Chutait cheminait doucement. Son pas était lent, mesuré, heureux. Il regardait le paysage défiler au gré de son parcours. Il le voyait en noir et blanc. Une déformation de son œil droit très malmené. L'absence de couleur dans son regard l'avait peiné, puis il s'était dit que le noir et blanc n'était pas du tout le gris. Il n'aimait pas le gris uniforme, non. Le noir et le blanc permettaient la nuance infinie, la déclinaison subtile de la lumière, le travail insoupçonné de l'ombre. Il ne souffrait pas l'absence du vert et du rouge, par exemple, sur les chemins qu'il parcourait. Il connaissait les couleurs grâce à sa mère qui lui racontait. Elle non plus ne les voyait pas, mais elle les connaissait elle-même par ses parents. La tradition orale avait circulé dans la famille à travers les générations. Sa mère lui avait dit « Tout ce qui est vert te rafraîchit, tout ce qui est rouge te brûle. » Très vite, il s'était rendu compte que les explications de sa mère étaient très insuffisantes. Les cerises ne le brûlaient pas. La couleur rouge pouvait donc aussi rafraîchir. Il prenait avec réserve les paroles maternelles. Il s'était ainsi aménagé un monde à son envie, à son image, à ses rêves intérieurs. La petite Claire qui voyageait avec lui était sans doute d'un beau violet, oui c'est ça, d'un mélange subtil de rouge et de bleu. Ils avançaient tous deux sur le chemin en échangeant de temps en temps quelques mouvements de tête complices. Il l'imaginait bien avec tout ce violet. Il n'était pas aveugle d'ailleurs, non, non, non. Il avait seulement une vision bichrome qui ne le gênait pas et ne l'empêchait pas d'exercer son métier et d'être heureux. « Ne lâche surtout pas ton travail, » lui avait encore dit sa mère, « parce que... » Et elle n'avait pas terminé sa phrase. Il en avait déduit qu'il y aurait sans doute un danger à cesser son activité et il en avait eu froid dans le dos. Et puis hier, Griset, son cousin, qui ne lui voulait pas que du bien, lui avait parlé de la phrase inachevée de sa mère et avait cru malin de l'achever. « Ouais, ne lâche surtout pas ton travail, parce que il te mangerait. » Chutait, exerçait le métier d'âne de compagnie. Fin de la nouvelle. Le dormeur. Il continuait sa toile lentement, avec application, fabriquant ses couleurs, mélangeant ses pigments. Le rouge était sa couleur tonique, le vert était sa dominante. La couleur dominante était là pour calmer l'ensemble, apaiser l'histoire. Oui, Glenn racontait une histoire dans son tableau. C'était un drame auquel il avait assisté. Peindre le drame lui permettrait peut-être de l'oublier. Le dormeur était là, aux trois quarts de l'espace pictural et au deuxième plan. Il respectait le nombre d'or, le sujet principal ne devant jamais être au centre. Glenn avait assisté à la mort d'un enfant, en pleine nature, un coup de fusil de chasse dans la poitrine. Il appelait son sujet le dormeur, par pudeur. Un enfant mort a besoin d'un nombre infini d'égards. Il est si peu à sa place dans le rôle de la mort, si peu à sa place dans ce tableau verdoyant. Et pourtant il est là, étendu dans l'herbe fraîche et dans le vent, comme s'il dormait, il est là avec sa tache rouge sur le cœur, juste placé là, mal placé. Si mal placé, une tache tonique, une tache qui met en mouvement tout le tableau. Le rouge, tel seulement un point, le vert, immense. Les deux couleurs tourbillonnent dans les yeux de Glenn sans se mélanger. Puis le rouge, omniprésent jusqu'au vertige, jusqu'au délire. Glenn mélange toujours ses pigments, du jaune, du bleu, encore du jaune et du bleu. Mais il ne voit plus rien, ses yeux se brouillent. Le rouge n'est qu'un point, mais ce point grossit, grossit toujours, jusqu'à devenir énorme. Il incendie le cœur de Glenn, accélère ses battements, envahit la surface à peindre. Il vacille, vite, il faut du vert pour ne pas tomber. Du vert, encore. C'est l'enfance qui est en jeu, cette fragilité pure, cette apothéose de l'éphémère. Éphémère, oui, cette vie si courte, un instant au regard de l'éternité. Le corps animé tourne autour de ce soleil rouge en un dernier mouvement, comme un astre mort dans un ciel déserté. Un point rouge décide d'un destin, le clôt, le termine. Glenn est saisi de malaise. Son œuvre le submerge, déborde de ses doigts, se déverse hors de la toile, se répand autour de lui, sur lui, qui s'écroule, évanoui. On le ranime, ça y est, il se réveille. Il n'est plus possédé par cette histoire. Il en est libéré. Il se relève, enfin, apaisé. Fin de la nouvelle. Côte 472. Côte 472. Le 28 mai 1915, à l'appel du vague-mestre, le caporal Masson s'avança pour retirer son colis. « Quel beau colis, Masson !» lui dit son sergent, qui avait toujours le mot pour rire. « Il ressemble à un bro. » Le sergent Thiel était un homme agréable, humain, bon vivant. Son amusement favori était de jouer avec les mots. Il aimait ses soldats et surtout les plus jeunes, brisés subitement au début de leur vie d'adulte. Il avait la quarantaine bedonnante et disait « Ça sera la dernière, après je m'en vais !» Jules Masson avait 18 ans. Le jour de la mobilisation générale, il avait senti son cœur s'éparpiller. Il venait d'entrer à la fac de médecine. Comment croire encore en son avenir, alors qu'on lui avait refusé sa demande de sursis? Tout en pataugeant dans sa tranchée, il s'accrochait cependant à son espoir. Il regarda l'objet avec méfiance, il cherchait le nom de l'expéditeur et la date. Il ne voyait rien. Il aimait bien sa marraine de guerre, mais ce n'était pas elle. Il lui semblait déceler une écriture masculine sur l'adresse, bien qu'elle soit en majuscule. Il ne voyait aucun autre indice qui lui aurait permis de deviner l'origine. L'objet avait en effet une forme de peau, voire de jambon, et il était lourd. En continuant d'observer l'emballage, il lui semble avoir au milieu du papier Kraft endommagé qui l'enveloppait des chiffres comme 2, 4, 15 ou 2, 5, 15. Or, Jules pouvait faire un rapide calcul. S'il s'agissait d'un jambon parti depuis plus de 3 semaines ou depuis plus d'un mois et demi, il serait bon à engraisser les rats. Il commença doucement à ouvrir le paquet méticuleusement. Il fallait être prudent, on ne savait jamais, car il n'attendait aucun colis et on était en guerre. Il le plaqua contre son oreille en le remuant, toujours méfiant, mais l'objet ne laissait échapper aucun bruit suspect. Il continua à développer le papier sous les yeux intrigués de ses compagnons de misère. Enfin, on vit apparaître un pot dans tous ses états, un magnifique pot décoré de couleurs vives, des roses d'un rouge éclatant mêlées de rouges plus foncés pour symboliser l'ombre et la lumière, de larges feuilles vertes, vert clair et vert foncé donnaient à cet ensemble une impression de profondeur. Le tout était peint sur un fond blanc bordé d'une fine ligne dorée. Tout le monde avait un regard admiratif et incrédule. Comment tant de beauté avait-elle pu arriver jusqu'ici, au milieu de tant de misère? Intact! C'était comme un rêve. Le sergent reprit de plus belle. Quel beau colis, maçon! Et Jules, maintenant plus détendu, eut un sourire. Cependant, ce cadeau demeurait mystérieux. Il eut l'idée de plonger une main à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas une carte ou un mot, un signe quelconque qu'il aurait pu identifier. Il y avait bien, tout au fond du pot, un petit papier froissé qu'il retira entre son index et son majeur, et il lut ses 4 hexamètres. « In vino Laetitia, pour que ta joie demeure. À travers les combats, qui boit le vin ne meurt, ton père Laurent, qui t'embrasse et pense à toi. » Jules poussa un grand soupir, il était ému et heureux, il avoua. Lorsque le colis est arrivé, j'ai hésité à l'ouvrir, j'avais peur, j'ai pensé que c'était peut-être un piège. Il expliqua que le rouge et le vert étaient les couleurs préférées de son père, qui était artiste peintre, qu'elles symbolisaient pour lui tour à tour la chaleur de vivre qui avait disparu aujourd'hui et la douceur du repos qu'il ne fallait pas négliger malgré la situation. C'est lui qui avait probablement peint ce vase. Tout le monde était joyeux. C'était une belle diversion au milieu du quotidien tellement triste et gris. Le sergent en profita pour en placer une autre. On peut dire que c'est vraiment un beau brocoli. Puis il disparut. Il revint très vite, l'air victorieux, tenant une bouteille de vin qu'il sortait d'on ne sait où, et il la vida dans le pot. Tout le monde sortit son quart. Jules versa le vin et on trinqua à la santé du papa. Fin de la nouvelle. Une amitié. Alors j'écrivais. Depuis l'âge de 14 ans, je commençais à jouer avec les rimes. Je m'amusais à écrire des alexandrins, j'aimais bien que ma vie s'accorde joliment avec le son des mots. J'étais sur un bateau qui roulait bord sur bord, avec cette petite musique et je comptais sur mes doigts. Mes pieds tanguaient, vacillaient, ils n'étaient pas toujours justes ni riches. Je jouais avec ce vacillement de mes pieds, rimes masculines, féminines, je me berçais dans la douceur de leur rythme, mais je ne coulais pas. Mon amie faisait de la peinture, j'imaginais qu'elle était là sur le même bateau que moi. Ce qu'elle peignait ressemblait à ce que j'écrivais, un peu informel, un peu flottant, presque abstrait. On s'entendait bien toutes les deux. On faisait des petits spectacles à la maison quand elle venait chez moi, il y avait mes textes, il y avait sa peinture, je lisais mes textes en gesticulant ou je les apprenais par cœur, un son de ma voix faisait surgir une couleur de son pinceau, un son lourd devenait la base de son tableau, une sienne brûlée, plus mes sons étaient aigus, plus les couleurs montaient dans son espace pictural, les plus aigus se transformaient en oiseaux de plein ciel, les plus ténus devenaient des moineaux plus terrestres sur des grappes de raisin. Quand je plaçais un point pour baisser ma voix, elle dessinait une barrière légère et aisément franchissable. Bien sûr, moi je continuais après mon point, je repartais plus loin, ailleurs. Je rebondissais sur un autre mot, je lançais comme une pierre dans le jardin qu'elle traduisait par une tache brune au milieu du rouge, du vert, du bleu, comme un ballon multicolore. Puis, un jour, la fête prit fin. Elle se maria, partie loin d'ici. Moi aussi, quelques années plus tard, j'avais un amoureux. Je te l'ai noté sur le livre. J'ai continué à écrire, bien que le cœur y fût moins. La belle émulation créatrice avait disparu. Le travail était plus laborieux. Puis, un jour, nous nous sommes trouvés par hasard chez Lambert à l'occasion d'un vernissage. Elle exposait ses œuvres. Son travail avait changé un peu. Le trait était plus sûr, mais les couleurs étaient toujours là. Les formes avaient presque totalement disparu. Elle suggérait un objet par un simple point d'une couleur différente du milieu pictural environnant. De près, on ne voyait rien. Il fallait s'éloigner du tableau pour distinguer quelque chose. Nous échangeâmes quelques mots juste pour exprimer notre bonheur réciproque et je compris tout de suite que notre relation adolescente allait reprendre vie. Dans l'instant, nous avions toutes les deux décidé de recommencer notre beau travail ensemble. Oui, nous recommencerions, c'était sûr. De mon côté, j'avais réussi à faire éditer un recueil de poésie. Notre belle amitié allait revivre, créative et folle. Pour sceller ces retrouvailles, je me tournais vers les autres invités et je commençais à jouer l'un de mes textes en m'adressant tantôt au public, tantôt au tableau et à elle. Nous allions recommencer de plus belle. Notre bateau était là, il nous attendait, nous allions réembarquer. Mes pieds rejoindraient le pont, Caïn, Caïn, mes vers se remettraient à vaciller. Nous voguerions de nouveau ensemble. Je tiendrais la barre en faisant des rimes, tandis qu'elle s'attacherait au grand mât pour peindre des marines, comme faisait Turner. La belle amitié nous protégerait de tous les naufrages. Fin de la nouvelle. Le navigateur. Mathieu travaillait sur un bateau, il était stagiaire, apprenti navigateur. Son professeur était le commandant de bord. Il s'escrimait à faire entrer les rudiments de la navigation dans la tête toute jeune de Mathieu. Il avait du mal à retenir le béaba. En venant du large, tu laisses les balises vertes à tribord. Ce sont des cônes. Autrement dit, quand tu entres dans un port, le rouge est à gauche, avec un feu rouge clignotant, le vert est à droite, avec un feu vert clignotant. Les bouées bâbord ont toujours la forme d'un cylindre et elles sont rouges. Les bouées tribord ont toujours la forme d'un cône et elles sont vertes. Ah, Mathieu, Mathieu, le commandant était un brave homme, habitué à former des aspirants marins. Le navire avançait tranquillement, le commandant accéléra un peu l'allure et Mathieu observa que des vagues se formaient à l'arrière. On lui avait dit que les vagues indiquaient une certaine vitesse de croisière. « Oui, dit le commandant. Les vagues indiquent que nous allons à une vitesse de 5 nœuds. Bon, maintenant, répète-moi un peu ta leçon. » Quand j'entre au port, commença Mathieu, je laisse toujours les balises vertes à tribord. Tu les prends à gauche, tu les laisses à droite, appuya le commandant. Ah, s'il n'avait pas eu tout ça à se mettre dans la tête, comme ce séjour aurait été heureux, mais voilà, sans difficulté, la vie serait trop plate, persuada-t-il. Et il reprit courageusement son traité de navigation ouvert devant lui. Il ne comprenait pas un certain nombre de choses, les histoires de chenal préféré, par exemple. C'était du charabia. Le chenal préféré à tribord, ça voulait dire quoi? Il est marqué par une bouée cylindrique à dominante rouge, mais avec une bande verte. Et là, quand le rouge et le vert se mélangeaient, tout se mélangeait aussi dans sa tête. Il n'y comprenait plus rien. Inversement, le chenal préféré à bâbord était marqué par une bouée conique à dominante verte avec une bande rouge. C'était compliqué. Les cylindres sont rouges, les cônes sont verts, les cylindres sont à gauche, les cônes sont à droite. Cylindre rouge, gauche, bâbord, cône, vert, droite, tribord. Il répète le soir dans sa cabine au lieu de dormir. Comme un bon écolier, il mémorise ses leçons. Mathieu veut apprendre. La navigation lui plaît. Il veut en faire son métier. Le lendemain, à son réveil, il commence à savoir, il commence à comprendre. Il est content, son commandant aussi, et il lui confie le gouvernail une petite heure. Mathieu voit des balises rayées verticalement, rouges et blancs. Il ne les a pas encore apprises. Ce sont les marques d'eau saine en eau profonde, tout va bien. Il n'y a aucun danger, lui dit le commandant. Ces marques sont accompagnées du feu blanc clignotant que tu aperçois là-bas et qui envoie un éclat long toutes les 10 secondes. En règle générale, un danger est toujours annoncé par des éclats précipités, groupés, accélérés. L'accélération est signe d'alerte. Au contraire, le feu calme montre que tout va bien. Mathieu est toujours à la barre, tôt à la roue, sur un navire de cette taille. Le commandant lui fait confiance. Pirant navigateur est fier de conduire cet énorme bâtiment à travers la haute mer. C'est enivrant. Il est comme le maître à bord, comme un dieu qui marche sur l'eau. Il court sur les flots. Il a enfin compris les places du rouge, les places du vert, sauf quand les deux couleurs se mélangent. Tant pis. Le coup du chenal préféré, il comprendra plus tard, à force de naviguer. Mais soudain, il revient à la réalité, car il voit son commandant s'agiter anormalement. Celui-ci vient de faire 3 relevés au compas sur la route d'un autre navire, et ces 3 relevés sont identiques, tous les 3 à 45 degrés. C'est le signe d'un abordage. Il va y avoir collision. C'est inévitable. Il fonce sur la roue, vire, bord sur bord, trop tard. Le navire est entré dans un autre bâtiment, la proue est touchée, le bateau prend l'eau à tribord. Le commandant ne perd pas son sang-froid, il rassure Mathieu, on va s'en sortir. Il faut stopper immédiatement les machines, il faut lancer un SOS, ça ira, notre navire semble peu touché. Tu retiendras. 3 relevés identiques qui se suivent. Sur la route d'un navire. Annonce une collision. Tu retiendras. Car tu viens de le vivre. Fin de la nouvelle. Dragon. T'as vu tes oreilles? Je me demande pour qui tu te prends. T'as vu ta tête comme un éléphant d'Afrique, sauf que t'es pas un éléphant, c'est ça le hic. On est quand même de la même famille, tous les deux. Faut qu'on arrête de se disputer, là. Fallait pas m'énerver tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? T'as parlé de mon nez. C'était pas méchant, si on peut plus rire alors. T'as dit un nez coupé comme les cochons quand même. Tiens, tu vois, tu rigoles encore. T'as bien parlé de mes oreilles, toi. C'était pour rire aussi. On a des nez et des oreilles très bien tous les deux. C'est pas ça le plus gênant, c'est plutôt la peau. Quoi la peau? T'as la peau verte, c'est un peu mieux que la peau blanche, c'est moins voyant. C'est moins voyant que toi, hein, c'est ça? Va jusqu'au bout de ton idée. Moi, je préfère qu'on me voie pas de loin, figure-toi, comme toi avec ta peau rouge. Maman nous avait dit qu'il fallait qu'on soit toujours ensemble pour être invulnérables, car nous étions complémentaires. Toi, on te voit à 5 kilomètres, et comme on est toujours ensemble, je suis repérée aussi. Heureusement que je suis là pour faire le guet. N'empêche, t'aurais pas dû avec la dernière petite. Ouais, t'as raison. Elle m'est restée sur l'estomac, celle-là. T'aurais pu m'aider. Sans compter que maintenant, on aura Georges sur le dos. C'est pas malin de ma part, c'est vrai. T'inquiète. Moi, Georges, j'en fais mon affaire. Je le vois venir de très loin. Je me couche dans l'herbe, ni vu ni connu, et je te préviens de l'assaut imminent. T'es sympa, dragouin. Avec ta peau verdâtre, tu me sauves. Mais moi, je préfère qu'on me voie de loin, ça leur fait peur. Je suis sympa, car je suis ton frère, oublie pas. T'es toujours à frimer, rouge, sur l'herbe verte. Un jour, tu vas te faire bouffer comme une grosse cerise. J'aime bien frimer, je suis comme ça, pour me remonter le moral. On a perdu notre métier depuis que Georges est arrivé. Il y aura bientôt plus de petites à se mettre sous la dent. Avec lui, qu'est-ce qu'on va devenir? Chut, j'ai entendu un bruit comme un pas de cheval. Tuss, je vais planquer, prépare-toi. Dragon 2 pour lui-même. Ah, gla, gla, il n'est pas beau, mon frère, mais il entend tout. J'ose plus me montrer depuis la dernière petite. Je l'ai toujours pas digéré, je me sens lourd. Dragon 1 qui crie de loin. C'est Georges, tension, il arrive avec sa grande pique. Prépare-toi à cracher le feu, je te couvre. Fais-lui peur, crache, vas-y, crache. Note en fin de nouvelle. Note, Saint-Georges, terrassant le dragon. Mais pas de chance pour lui, ils sont deux, des jumeaux. Faudra-t-il qu'il en parle à Saint-Michel? Fin de la nouvelle. Le baillon. J'avais à peine quelques semaines quand ma mère m'a mis dans la bouche un morceau de caoutchouc avec une poignée rouge. Mes mains ne pouvaient pas encore enlever l'objet. Il est donc resté dans ma bouche. Ça me faisait loucher à cause du rouge. Ma mère avait l'air d'être contente d'elle, alors moi, j'ai fait semblant de l'être aussi. Je vous explique. À l'âge que j'ai, 1 mois, il faut absolument que je lui plaise à ma mère. Sinon, elle peut faire ce qu'elle veut de moi, je suis sans défense. Tous les bébés savent ça intuitivement. Il faut que je lui plaise pour qu'elle m'aime. La seule voie est de suivre le mouvement. On ne se connaît pas encore toutes les deux. Il faut que je fasse attention. Voilà, dès que j'ai pris mon lait, j'ai eu droit au bout de caoutchouc. Elle a vu mes yeux qui louchent. Elle en a acheté un avec une poignée vert foncé. Je ne louche plus, mais ce n'est pas meilleur. Il faut s'y faire. Une des phrases préférées de ma grand-mère. L'autre jour, ma grand-tante est venue voir maman. Elle lui a demandé pourquoi j'avais ça dans la bouche. Elle se pose exactement la même question que moi. Maman lui a répondu « Ça s'appelle une tétine ». Puis elle a rajouté « Rassure-toi, on ne la force pas, elle aime bien la voir. Ça la calme beaucoup. » Et comme c'était tard, elle lui a encore dit « Bonne nuit ». Ma grand-tante n'aime pas me voir avec ça. Elle dit qu'elle a mal. Pour elle, c'est un baillon. J'ai cherché dans ma mémoire d'avance que c'était qu'un baillon, ce que l'on met contre la bouche de quelqu'un pour l'empêcher de parler. C'était donc ça qu'elle voulait dire, ma grand-tante. Maman ne voulait pas que je parle. Elle voulait juste que je me calme. Mais pourquoi me calmer? Je suis sans doute énervée. Mais pourquoi je suis énervée? Je voudrais entendre la voix de maman qui me parle. Si elle me parlait longuement, me regardait longuement, je serais calme. Elle préfère me calmer avec un bout de caoutchouc. J'ai compris tout de suite. Tant pis. Elle viendra pas me regarder. Bien sûr, je ne sais pas encore parler, mais elle pourrait écouter tout ce que j'essaie de lui dire avec ma bouche. Ils sont beaux, les sons que je fais. C'est moi qui les crée. Je suis fière de faire autant de gazouillis. C'est pour lui raconter ma vie. J'ai déjà plein de choses à lui dire. Elle n'écoute pas. Je crois bien qu'elle ne m'écoutera jamais. Je veux dire vraiment en profondeur. Je n'ai que quelques semaines et je suis déjà une résignée, comme ma grand-mère. Il y a tout un monde que je n'atteindrai pas, je le sais. Je voudrais qu'elle entende mes toutes premières créations, ma mère. Qu'elle les encourage. Qu'elle parle avec moi. Mais elle est fermée. Non, c'est déjà trop tard. Mon destin est scellé. Il y a les bandes dessinées de bécassines de mon arrière-grand-mère qui attendent déjà que je sache lire. Impossible d'évoluer au sein de cette famille. Pour ma consolation, je préfère la tétine verte. J'aime bien le vert. C'est une couleur douce. On dit que c'est la couleur de l'espoir. Ma mère n'est pas douce. Je suis la grand-tante et j'ai quelque chose à dire. Je connais bien la mère de ma petite nièce et encore mieux sa grand-mère. Celle-ci a déjà élevé sa fille, bouche close, à la tétine. Et la fille répète maintenant les mêmes gestes sans réfléchir. C'est toute une lignée de bouches closes à la tétine qui se prépare. Je m'en suis un peu occupée de la fille quand elle avait 7 ans. Je l'avais emmenée avec un ami au centre Georges Pompidou et nous l'avions laissée à l'atelier des enfants. Nous avons été appelés au micro 10 minutes plus tard pour venir la chercher car elle hurlait. Voilà les fruits d'une belle éducation, de lèvres closes, inaccessibles à la créativité, terrorisée par l'expression sous toutes ses formes. Je n'ai jamais pu discuter avec sa mère, dont la deuxième phrase préférée est celle-là. « Tais-toi, tu n'as jamais eu d'enfant, tu ne peux rien comprendre. » Oui, c'est ça, bonne nuit, tais-toi. Tu n'as pas le droit d'exister. Fin de la nouvelle. Les deux frères pourraient chacun se caractériser par ces deux répliques. « Oui, je suis preneur !» disait Im. « Non merci, je n'en ai pas besoin. Garde pour toi !» disait Nam. Depuis toujours, l'un prenait, l'autre donnait. Im prenait tout ce qui s'offrait à sa portée en toutes circonstances. L'autre était toujours dans le don, il ne vous rendait jamais visite sans apporter un petit cadeau. L'important n'était pas dans le cadeau, mais c'était dans le geste. Il était le fils préféré, bien qu'aucun des deux parents n'ait jamais évoqué le sujet, leur préférence à tous deux restait dans le non-dit. Celui qui donnait était préféré, parce qu'il était dans la générosité, l'empathie et avait plus de cœur. Il eut parfois, d'ailleurs, à s'en mordre les doigts. Des personnages indélicats avaient outrageusement profité de lui sous couvert d'amitié et l'avaient volé. Il était trop bon. Depuis, il se méfiait un peu sans perdre sa bonté. L'autre était ce qu'on appelle un prédateur. Il avait poussé dans l'ombre et la peur de son père. Il était maigre, voire malingre, comme s'il n'avait pas osé prendre sa place au sein de la fratrie. Nam, par contre, s'était épanoui sans peur et dans l'admiration absolue de sa mère. Il avait développé une belle corpulence à l'instar de son père. Cependant, cet amour excessif pour sa mère lui laissait le cœur lourd, éternellement reconnaissant, incapable de se passer de sa présence. Il n'arrivait pas à se choisir une épouse qui puisse, d'après lui, l'égaler par ses qualités. Il idéalisait sa mère et la cherchait dans toutes les femmes, allant de déception en déception. Il se réfugiait dans les jeux qui l'éloignaient de la réalité et de sa souffrance. Im, lui aussi, souffrait, à cause de la peur qu'il avait de son père et dont il reproduisait les mêmes comportements pour lui plaire. Il était, lui aussi, loin de sa propre vie. Nam était un bon vivant. Son frère ne l'était pas. Im, bien que toujours prenant, s'accaparant, même sans besoin, sans aucun souci des autres, juste pour le plaisir de prendre, jouaient les anges dans sa vie quotidienne. Ce n'était pas un dévoreur de vie. Il mangeait du bout des lèvres, il ne buvait pas, et était toujours apparemment dans la bienveillance. Cet angélisme étonnant s'était développé parallèlement à son attitude de prédateur, et cela faisait un curieux mélange. Qui veut faire l'ange fait la bête, avait dit le philosophe Pascal. À bien l'observer, on pouvait découvrir en effet un certain autoritarisme rentré sous des sourires forcés, une rigueur absurde sous sa voix suave. La bête était toujours là, guettant, sous la douce apparence. Il fallait être prudent, on pouvait bien s'y laisser prendre. C'était lui qui comptait, avant tout. Avec Nam, il n'y avait aucun danger. Il était franc et clair dans ses sentiments. Il aimait la bonne chair et le vin, mais ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était d'être devant une grosse assiette de spaghettis avec de la sauce tomate bien rouge, du basilic bien vert et de la mozzarella au milieu. Il disait à chaque fois qu'il repeignait le drapeau italien à cause du rouge, du vert, du blanc. Nam avait un certain humour, ce dont son frère était totalement dépourvu. Im était sérieux, avait l'esprit de sérieux, comme aurait dit Jean-Paul Sartre. Il n'était que sérieux et toujours prêt à bondir à la moindre parole qui ne lui plaisait pas. Mais il ne bondissait jamais, malgré la violence qui couvait et qui émanait de lui. C'était l'ange qui, apparemment, gagnait. Fin de la nouvelle. La mariée était en noir. J'avais entendu parler du mariage et j'avais été surprise qu'elle se marie, Marie, avec sa vie tumultueuse, déjantée. Qu'elle en choisisse enfin un seul était étonnant. Quand le jour arriva, je la vis tout affairée à sa toilette. Elle n'était pourtant pas en blanc, ni en dentelle, mais tout en noir. Elle avait préféré cette couleur, pécour au ragot, méchanceté et médisance. Oui, elle avait bien vécu. Et alors ? J'étais donc là, en ce jour J, et en ce jardin où la grande table était dressée. Elle n'arrivait pas à attacher sa cape sur ses épaules, elle était énervée, je l'aidais aussi à mettre ses longs gants noirs également. Puis, je perçus le marié, un peu plus tard. C'était un bel Indien d'Amérique, qui avait un chapeau de plumes noires sur la tête. Elle lui avait demandé ça pour rire. Tous ses désirs étaient des ordres. « Mais oui, ma chérie, ce n'est pas tous les jours qu'on se marie, Marie. » Elle était étonnante, avec cet homme, son teint cuivré, elle qui avait la peau si blanche dans ses atours noirs. Mais je sentais que quelque chose n'allait pas, elle avait l'air préoccupée, absente. Enfin, tout le monde se rendit à la mairie, les futurs mariés avaient rendez-vous à 11 heures. Le maire arriva bientôt avec sa large écharpe bleue, blanc, rouge, puis on attendit les candidats au mariage. On attendit. Ce fut lui qui monta enfin les escaliers en trombe et ses plumes volaient au vent. Il annonça hors d'haleine. Marie a disparu. Je l'ai cherchée partout. Je ne la trouve pas. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était elle qui me disait qu'elle n'avait pas pu, au dernier moment, franchir le pas. Fin de la nouvelle. D'un seul coup, elle est là, prête à bondir, j'ai peur. Dans un vieux réflexe de survie, je fais le mort. C'est facile, j'en ai une longue expérience. Il suffit de serrer dans le corps, là-dedans, serrer tout ce qui a encore l'audace de vouloir vivre, les membres, bien sûr, immobiles, mais aussi la tête, les yeux, les oreilles, tout figé, tout rentré à l'intérieur, tout bloqué, stopper même le cœur. Attention, risque de suffocation, d'étouffement, comme un pauvre insecte, je serre mes abatis. Non, ma dernière heure n'est pas encore venue, je la vois, qui amorce un pas de deux latéral dans la direction opposée à la mienne. Aussi, j'en profite pour respirer, imperceptiblement, ouf, une grande goulée d'air, ouf, une grande inspiration qui m'inspire elle-même une réflexion. Je ne suis pas l'objet de son attention. Je ne suis pas visée finalement dans cette histoire lamentable qui m'a mis le sang à la tête. D'un seul coup, elle bondit encore, loin de moi, vers une victime que je ne vois pas. Oui, mais moi, je veux être solidaire à cause de cette grande peur qui vient de m'étreindre. Je veux sauver celui ou celle qui est menacée. J'avance doucement. Elle ne fait pas attention à moi, j'en profite, je m'avance encore et hop ! Je lui saute dessus, elle est prise au piège. Je la mords, je la pique. Je souffle dessus très fort. Elle se cramponne pour ne pas tomber. Elle n'avait pas prévu ce vent d'un autre ailleurs, ce sirocco cinglant. Elle panique. Je le vois, elle va lâcher prise. Elle lâche enfin et tombe vaincue tout en bas des rideaux. C'est une énorme araignée monstrueuse. Je ne suis qu'une petite puce. Fin de la nouvelle. Aujourd'hui comme hier, nos pré-socratiques parlaient très bien du temps. Eux qui coulaient leurs jours tranquilles à l'intérieur d'un cercle. Ils n'avaient pas tort de penser que le temps était cyclique en observant régulièrement la succession des saisons, le retour des idées ou de l'amour. Ne pas se presser, le temps reviendra. L'événement qui a mis l'histoire en marche à l'aube de l'an zéro n'a fait partir vers l'avant que les calendriers et les horloges. Le temps des montres s'est alors installé, puis le temps des jours, des mois, des années, on a tout compté, inventé la comptabilité, le temps horizontal et linéaire, le temps du corps et de sa destruction, avec son cortège de peur et d'angoisse, le temps de toutes les destructions. Nous avons ensuite inventé l'argent, time is money. Le temps s'est mis en marche, toujours plus vite, toujours plus fou. Nous avons peur de le perdre, nous avons peur de ne pas l'avoir. Mais quel est-il, ce temps que nous voulons posséder? Autrefois, le temps était une donnée de l'être, non de l'avoir. Et l'angoisse naît toujours de ce que nous voulons posséder. Le pré-socratique nous sourit du haut de son ciel. Il nous souffle que tout revient et qu'il faut nous calmer. Le temps nous constitue, il est à l'intérieur de nous-mêmes et non pas un avoir à posséder. Mais il nous manque, nous l'avons perdu. Il est sorti de nous-mêmes et nous courons pour le rattraper. Il faut le laisser revenir à l'intérieur de nous et nous réinstaller dans la douceur, dans l'ataraxie. Nietzsche aussi nous souffle du haut de son ciel que tout revient dans un éternel retour et que le dieu des églises est mort. Nous avons traduit que le temps tourne en rond, car nous n'avons pas compris et nous ne voulons pas d'un temps qui tourne en rond. Mais n'annonçait-il pas simplement la mort du temps horizontal? N'annonçait-il pas, ces philosophes-là, un temps du cœur, celui qui nous permet d'aimer nos morts, un temps vertical, un temps intemporel qui peut renaître sans cesse et qui n'est pas linéaire. Fin de la nouvelle. Essai scène.
Je reprends.
Essai scène. Grillé. T'es grillé, ma vieille.
Comment ça grillé? D'abord, sois un peu plus poli.
Quand t'as ramassé le parapluie, tu savais pas? Bon, grillé, je veux bien, mais grillé de quoi? Bon, ok, je suis grillé si tu veux, mais donne-moi le parapluie. On va se faire un balayage avec, comme à la grande époque des cours à l'opéra. Je vais le balancer là, comme ça en tournant, avec un pied en pointe, et toi tu vas l'attraper au vol en essayant d'un seul coup de l'ouvrir, comme ça. Vlan, tu sais, le coup du parapluie automatique. Ah non, pas ça, on va nous prendre pour des branques. Non, il faut plutôt jouer avec sans l'ouvrir. Tu le passes là, par le manche, tu le passes par la pointe, tu le lances et tu le rattrapes en faisant un grand pas en avant.
C'est nul ton truc, tu vas te casser la figure, moi je te dis. Tu l'ouvres là d'un seul coup et quand il sera ouvert, tu quittes la scène. Tranquillement avec moi, on aura l'air moins con.
Mais si, ma vieille, on aura l'air aussi con, pareil. Avec un grand pas en avant, c'est mieux pour quitter la scène. Ou un pas en arrière, comme tu peux.
Non, je suis pas d'accord. Puis arrête de m'appeler ta vieille. Puis aussi, avec le parapluie ouvert, on peut se cacher un peu derrière pour sortir.
Pourquoi tu veux te cacher? Au contraire, faut qu'on nous voit avec le parapluie, qu'on le fasse tourner au-dessus de nos têtes, du bout des doigts, sans le lâcher, en ondulant le torse. Faut s'entraîner.
Jour les filles! J'avais oublié mon parapluie tout à l'heure. Dieu les filles!
Fin de la nouvelle. Échec ou victoire? Pourtant, ce n'était pas une tragédie. Jean avait perdu, complètement raté, sa compétition de Scrabble. Léonie, elle, avait remporté la coupe victorieuse. Elle était radieuse, en pleine santé. Elle regardait tourbillonner les sphères multifacettes qui lançaient des éclairs de lumière. Le jeu avait été facile pour elle. Certains mots relevaient d'archaïsme, mais ils avaient été acceptés par le jury. Jean, par contre, avait mis un mot inexact. Aïe ! L'instant avait été douloureux quand il annonçait ses trophées. Mais là, mal à la tête peut-être, une perturbation crânienne l'avait empêché de réfléchir. Il était furieux après lui-même, mais il en voulait aussi aux organisateurs. Il faisait une chaleur insupportable dans ce studio et il n'y avait rien à boire. Le cerveau avait donné des signes de fatigue. Pour la première fois, il n'avait pas gagné et son titre de champion s'envolait. L'enjeu de cet échec était catastrophique. Il ne pensait plus à taquiner sa voisine de jeu, qui était toujours à ses côtés au Scrabble, et à qui il disait sans cesse « Souris jamais, jamais là !» Il lui disait ça car il aimait rire de tout, sans méchanceté, et aussitôt elle lui renvoyait un grand rire. Ça les amusait tous les deux, c'était de bonne guerre. Ils se suivaient depuis des années, ils faisaient des matchs ensemble et étaient de force égale. Léonie, elle, venait le consoler. Elle faisait ce qu'elle pouvait, mais rien n'y faisait. Elle ne parlait pas de son propre succès, de peur de l'irriter davantage. Elle riait toujours, d'habitude, comme lui, mais là, elle s'abstenait. Elle ne voulait pas faire éclater sa joie devant lui. Il était trop triste, vraiment trop triste. Quand même, la vie ne tient pas à un match de Scrabble. Ce n'est pas une tragédie, lui avait-elle dit. Cet échec de Jean le rapprochait finalement de Léonie, dont il était amoureux en secret. Léonie, tellement discrète et compréhensive avec lui. Non, la vie ne tenait pas à un match de Scrabble. Mais un match de Scrabble pouvait peut-être conduire à la vie, la vraie vie d'un amour.